Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Soyez les bienvenus sur Europe 1, nous sommes ensemble pour faire le tour de la question au quotidien. On va revenir sur des sujets liés à l'actualité, à l'ère du temps, sujet fort et riche en émotions. Ce matin, bonjour Julie,
rebonjour
ma chère Julie.
Bonjour Wendy.
Avec demain ce film qui sort au cinéma, Les Invisibles, un film qui rend hommage aux travailleuses sociales notamment, qui tentent de réinsérer les sans-abri, des femmes courage, femmes de l'ombre face à d'autres femmes courage précisément. Ces SDF en France, femmes et hommes sont représentés aujourd'hui sur notre plateau. Ce film nous donne l'occasion de les entendre cette violence de la rue, la manière dont on s'en sort aussi, la réinsertion est la clé aussi de ce salut. Pourquoi sont-ils, cela dit, de plus en plus nombreux en France? On vous éclaire sur le sujet. Et puis à 10h, on va revenir sur la validation par le Conseil d'État de la chasse d'oiseaux à la glu. Une chasse traditionnelle qui consiste à capturer ces oiseaux à l'aide de tiges en bois enduites de glu posées sur des arbres ou sur des buissons. La LPO porte plainte contre la France devant les instances européennes. Son président, Alain Bougrain-Dubourg, sera avec nous pour pousser son cri d'alarme sur l'un et l'autre des sujets. Vous êtes les bienvenus pour témoigner, pour réagir au Standard d'Europe 1, ma chère Julie.
C'est le 39-21 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités, à la veille de la sortie de ce film bouleversant, d'émotion, de rire aussi, je suis ravie d'accueillir notamment son réalisateur Louis-Julien Petit. Bonjour Louis-Julien.
Bonjour.
Bravo pour ce geste d'amour et de vie que vous livrez dans ce film-là.
D'amour, d'humour et d'humain.
D'humour, exactement. Plein de réalisme, plein de crudité aussi.
Merci beaucoup.
Vous êtes aux côtés d'Adolpha. Bonjour madame.
Bonjour.
Et ravie de vous rencontrer. Je ne vois que vous dans ce studio parce que j'ai vu ce film hier où vous êtes tellement présente, tellement forte aussi, hyper bricoleuse, je tiens à le préciser.
Ah ouais, hein, ouais.
Vous réparez tout.
Mais
la machine à laver,
hein,
au scooter. Hein,
je sais rien faire. Hein.
Non, vous ne savez rien faire. Eh ben, en tout cas, vous avez prouvé le contraire dans ce film-là. Vous avez vécu, vous, Adolpha, dans votre vie, dans votre chair, la violence de la rue pendant des années, précisément.
Ah ouais, c'est vrai.
Combien de temps?
Oh, pendant... Mais je dormais dans ma voiture quand même. Hein.
Oui,
j'avais une voiture. Hein. Mmh. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient pas de voiture, donc c'était plus dur pour eux. Puis il y a beaucoup de faibles dans la rue.
Oui.
Des gens qui ne doivent pas répondre.
Oui.
Tandis que moi, j'ai une grande gueule. Alors,
alors vous avez réussi à vous battre. Je suis heureuse aussi d'accueillir Didier, qui est avec nous. Bonjour,
bonjour.
Didier. Vous avez été sans domicile fixe. Alors, est-ce que vous dormiez, vous aussi, dans une voiture, à un moment donné, de votre errance pendant 3 ans?
Moi, je dormais, j'ai dormi dans la rue et je travaillais aussi en même temps.
Ouais, ouais.
Parce que je suis boucher de métier. Et, donc, j'ai pu travailler au Black. Voilà, je me débrouillais pour pouvoir me payer l'hôtel.
Ouais.
Parce que
je n'ai
jamais voulu le RSA.
Oui. Pour refuser cette forme d'assistanat.
Ouais. Ah ouais.
Alors, vous allez l'un et l'autre témoigner longuement, mais je fais le petit tour de table pour présenter aussi nos invités, vos auditeurs et à Julie. Julien Damon est avec nous, sociologue.
Bonjour. Bonjour.
Professeur associé à Sciences Po. Vous avez écrit le livre « Exclusion vers zéro SDF ». Point d'interrogation. Alors, c'est bien une des questions qu'on se pose, alors qu'Emmanuel Macron avait tenu comme engagement de campagne la volonté de ne plus voir aucune femme, aucun homme dans les rues.
Dans les bois.
Et dans les bois. c'est loin d'être le cas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on parle de ces hommes, de ces femmes comme des invisibles, oubliés de la République, entre autres, et invisibles.
Oui, alors je pense qu'ils ne sont ni oubliés ni invisibles, on discutera de tout ça, ni oubliés parce que la France est un pays singulier, qui certes fait insuffisamment et mal, mais fait beaucoup, et ni invisibles parce qu'en réalité, ils sont au vu et au su de tout le monde. En fait, on est très mauvais, malgré tout ce que l'on fait, c'est ça le sujet, je crois.
Oui, on va parler évidemment de la nécessité du logement, la main tendue des travailleuses sociales, des travailleurs sociaux que vous mettez vraiment en lumière dans ce film Les Invisibles, Louis-Julien Petit. Cette idée vous est venue à partir d'un documentaire.
Ouais. Documentaire d'un livre de Claire Lajeunie,
oui.
Qui a passé plusieurs mois avec des femmes de la rue à Paris. Elle m'a dit, quand elle a écrit le livre, elle avait l'impression de ne pas avoir tout mis dans son documentaire. Donc elle a parlé de son point de vue avec ses centres d'accueil et ses femmes. Elle m'a dit, elle m'a fait un grand cadeau en me donnant ce livre, en me disant, moi j'ai beaucoup ri. Et je lui ai dit, comment est-il possible de rire d'un sujet comme celui-ci? Et elle m'a dit, j'ai pas ri d'eux, j'ai ri avec. Mmh. J'ai ri avec ces femmes. Et moi, je suis partie dans des centres d'accueil pendant un an. Donc, moi, contrairement à ce que vous dites, monsieur, moi, je suis... au contraire, effectivement, ils sont invisibles je trouve que d'un commun accord de chacun, en fait, on baisse le regard, moi le premier, dans la rue, parce que j'ai pas toutes les solutions, parce que moi, personnellement, je suis que cinéaste, mais...
Parce qu'on se sent honteux de cette situation aussi, en tant que citoyen.
Honteux, je pense surtout qu'on a peur de se retrouver dans cette situation-là. Mmh. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y a ça.
Et puis le monde des SDF a changé
Didier.
Aussi.
Donc
voilà.
Ouais.
Parce que c'est plus comme avant où... c'était, on les appelait les clochards d'ailleurs, les sans-abri. Ouais,
moi j'avais plein d'a priori, d'images préconçues, etc. Et quand je suis allé dans les centres d'accueil, j'ai vu juste des gens qui me ressemblaient complètement. Et
c'est ce qui montre très bien
votre film. Surtout des capacités, des compétences et des choses extrêmement positives.
Ouais.
Et ce qui était important, bah, on va en parler avec Adolphe, mais ce qui était important, c'était, en tout cas avec le film, c'était de proposer de relever le regard pendant 1h40, de rire avec ces femmes et de se servir des salles obscures pour se créer sa propre opinion, se créer son intimité avec ces centres, avec ces travailleurs sociaux qui sont aussi les invisibles, ceux qui ne sont pas aidés à aider les autres.
Absolument.
Et voilà, et ces femmes aussi fortes et drôles qu'Adolphe avant le miracle.
Alors vous avez ce casting de travailleuses sociales, d'assistantes sociales, de Corinne Massiero à Audrey Lamy, à Noémie Lovski, bénévole dans un centre d'accueil de jour pour femmes. Et vous avez autour de vous, donc notamment Adolphe qui fait partie du casting, vous n'êtes pas actrice, vous n'êtes pas née actrice Adolphe, et donc vous avez mis ici au service de ce film justement votre vie, votre réalité, votre humour, parce que vous en avez beaucoup justement. Pour tenir face à la dureté de la vie et de la rue, il faut de l'humour, justement, de l'esprit critique, beaucoup.
De toute manière, ma mère m'a dit « Vers-toi, comédienne ». Alors qu'à chaque coup que je dispute avec elle, elle me disait ça. J'ai fini comédienne.
Mais c'est pas fini, c'est
une carrière. Il y a beaucoup d'humour parce qu'elle disait que c'était sa force.
Et c'est ma force.
Ouais.
Je me l'ai, comme je dis toujours, heureusement que j'ai eu le père. Et après, il y a eu Corinne.
Corinne Massiero,
impeccable.
Oui. Corinne Massiero qui
ça continue. Je suis trois fois immortelle. Hein.
Là, il faut expliquer que Corinne Massiero
a mis en scène
le livre que vous avez écrit sur votre vie. Voilà,
sur
qu'elle interprète
au théâtre d'Adolphe.
Voilà.
Et après il y a le théâtre que je fais avec Corinne Massiero.
Oui.
Et puis le film. Alors ça fait trois fois immortel.
Et vous expliquez que quand Corinne Massiero...
Jusqu'à 100 ans. Hein.
Adolphe, vous expliquez que quand Corinne Massiero raconte votre vie, ça vous bouleverse, comme si ce n'était pas la vôtre. C'est tellement dur, tellement lourd ce qu'elle explique, ce que vous avez vécu, que ça renvoie une réalité en face.
Non, moi je le regarde et puis alors je suis là. On dirait que je l'entends pour la première fois chaque fois qu'elle le raconte.
Ouais, c'est vrai. Moi je l'ai vu.
Je sais pas, pour moi c'est surprenant, j'aime bien.
Ah oui.
Ouais, parce qu'il y a un truc qu'elle m'a dit, moi ça me fait brère de rire.
Ouais.
C'est l'expression du Nord, brère ça veut dire pleurer de rire.
Ouais.
Y a autant d'humour que d'amour, c'est la tragicomédie de la vie.
Ouais.
Moi je l'ai vu sa pièce La vie bien rangée d'Adolphe qui se produit un peu partout, d'abord dans le Nord et on espère à vie au théâtreux de produire cette pièce parce que c'est exceptionnel. Adolphe est face à nous, spectateurs, donc on est... on est témoin d'elle qui écoute sa propre vie. Mais si on prend un peu de recul, de toute façon, des accidents de vie comme a eu Adolphe, pour la plupart, ça peut nous arriver. C'est un deuil, une maladie, une rupture familiale.
Oui.
Et là, comment on fait pour relever la tête, pour reprendre confiance en soi, pour reprendre du lien social?
Oui.
Et ben, pour ceux qui ont une famille, des amis, c'est super. Et puis pour ceux qui n'en ont pas, il faut des institutions. Et c'est eux qu'il faut aider, je crois.
Alors, je ne sais pas si c'est en partie utopique, mais en tout cas, la famille, l'autre famille que vous mettez en lumière dans ce film-là, la famille de ce centre d'accueil de jour tenu par ces femmes combatives,
on a envie d'y
croire. Voilà, et on a envie de croire que c'est le modèle. Vous nous direz, Didier, si vous avez rencontré ça dans les centres d'accueil de jour. Aussi, Adolphe, vous allez nous raconter votre histoire plus précisément. Alors que 40% des SDF sont des femmes aujourd'hui en France, Julien Damon va nous faire aussi un éclairage comme sociologue sur cette pauvreté, cette précarité persistante en France. En 2019, il y a encore au moins 150 000 personnes qui vivent dans la rue. A tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous parlons du film Invisible qui sort demain sous forme de comédie sociale qui met en lumière avec beaucoup d'humour, heureusement, la réalité des gens de la rue. Wendy Bouchard.
Et j'ai le plaisir de recevoir son réalisateur. Vous nous aviez déjà régalé, si j'ose dire, avec le film Discount, des salariés d'une grande surface qui se joignaient les uns aux autres pour créer un commerce équitable. C'était un film déjà très fort, social, et cette fois Les Invisibles, bien, vous nous emmenez dans un autre univers, parfois négligé, oublié peut-être par l'État, on va en parler, celui des sans-abri en France, autour de 150 000 personnes, mais c'est un chiffre qui est probablement très sous-estimé. Julien Damon est avec nous, sociologue et professeur associé à Sciences Po. Il a écrit « Exclusion vers zéro SDF ». Et je vais donner la parole dans un instant à Didier, sans domicile fixe pendant 3 ans, mais je crois que la voie de la réinsertion... amorcé. Vous allez nous dire tout ça. Et Adolpha, vous qui avez connu la rue et la misère, qui avez publié en 2012 ce livre, La vie bien rangée d'Adolpha, et qui est au casting de ce film. Nous parlons des femmes dans Les Invisibles. Louis-Julien Petit, vous allez nous dire pourquoi. 40% des SDF sont des femmes, 2 sur 5 en France. Julien Damon, ça c'est une réalité aussi criante.
Alors, le premier mot, pour donner raison à Didier, c'est que ce monde des sans-abri a beaucoup changé. Il y a 50-60 ans, en effet, on parlait des clochards. Au cinéma, on projetait Archimède le clochard avec Jean Gabin, une sorte de personnage folklorique, barbu, qui aurait un peu choisir sa vie. Mmh. À cette époque, il n'y avait quasiment aucune femme à la rue. Donc, depuis 30-40 ans, le phénomène s'est accentué, féminisé. Il faut avoir à l'esprit deux choses, à mon avis. Quand on parle des sans-abri, il y a les gens que l'on voit, et qui ne sont pas forcément totalement invisibles, puisqu'on les voit, et que c'est vrai, on baisse le regard. Et il y a tous ceux que l'on ne voit pas, ce sont ceux qui sont dans les centres d'hébergement. Et il y a beaucoup plus de gens qui sont aujourd'hui dans des centres d'hébergement que de gens qui vivent complètement à la rue. Oui. Alors, sur l'ensemble de cette population, en effet, il y a 40% de femmes. Sur les personnes qui vivent complètement à la rue, qui vivent chaque soir dans la rue, vous avez là beaucoup moins de femmes, vous avez 10% de femmes. Quand je dis 10%, c'est pas pour dire que les chiffres sont extrêmement précis, prenons un simple fait. En février dernier, 2018, la mairie de Paris a organisé avec tous les citoyens de Paris qui voulaient y participer, un quadrillage de toute la ville, une nuit donnée pour aller discuter, rencontrer, passer des questionnaires, il faut toujours être un peu sérieux. Et là, il y avait 12% de femmes à la rue. Donc si vous voulez, sur le sujet des sans-domicile, comme les baptisent l'INSEE, un peu technocratique, vous avez en effet 40% de femmes, et surtout dans les centres d'hébergement. Maintenant, complètement à la rue, vous avez environ 10% de femmes.
D'accord. Les centres d'hébergement et les centres d'accueil, alors ça c'est pour la journée de service. C'est là où vous avez posé votre caméra, Louis-Julien Petit, vous avez décidé de voir comment vivent ces femmes le jour. Alors, elles ont peut-être erré, on ne sait où, la nuit, on ne sait pas comment elles ont dormi, mais ces centres d'accueil de jour permettent le lien social.
Oui, bien sûr, parce qu'être dehors pour une femme, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'en plus, dans ces centres d'accueil, quand on vient prendre un café, prendre une douche, charger son téléphone, on est en sécurité. Ça paraît bête à dire, mais c'est ça. Et par rapport aux chiffres, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet-là, sur ce film. J'ai entendu tous les chiffres possibles et imaginables. C'est très, très, très difficile
bien
de comptabiliser parce que, en fait, on est recensé quand on va dans des centres. On a une carte et donc on doit dire je suis machin, nana. Il y a des gens qui n'ont pas, les femmes surtout. C'est pour ça qu'elles ont des prénoms d'emprunt dans le film. Et dans les centres d'accueil, c'est pour conserver leur anonymat. Dans le film, c'est aussi pour créer un avatar avec Adolpha, Chantal Goya, du coup, et Edith Piaf, et
Lady Di, Catherine Lara. Et ça se fait dans tous les centres, dans beaucoup de centres d'accueil.
Ouais, Claire Lagenier a rencontré Catherine Deneuve, par exemple.
Ah, c'est vrai. Et Brigitte Bardot aussi.
Voilà. Brigitte Bardot. Non, mais Julie pour dire. Oui. Voilà, c'est ça, il y a une sécurité dans ces centres.
Oui,
voilà.
Qui ne sont plus mixtes, enfin, il y en a qui sont exclusivement féminins.
Il y en a qui sont mixtes, il y en a de moins en moins. Mixtes, moi, ce que je me réjouis aujourd'hui, on a montré le film à Angoulême fin août. Il y avait une dame derrière moi qui s'appelait Anne Hidalgo qui a dit « je vais agir ». Depuis le 13 décembre, il y a 45 femmes qui vivent en sécurité H24 à l'hôtel de ville, elle a ouvert les portes. On peut dire ce qu'on veut, mais... Ça a été fait. Et j'espère, peu importe le bord politique, parce que là, on parle de la politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire humain. Il y a une crise humaine. Moi, c'est un film de femme, mais qui parle de l'homme avec un grand H et des rapports humains qui nous manquent. Voilà, j'espère que ces initiatives, déjà, un, seront pérennes et deux, seront, voilà. La petite goutte qui fait les grandes rivières, j'espère.
Mais pour en revenir au pseudonyme, pourquoi il est important qu'elles cachent leur propre identité ?
C'est pas qu'il est important, c'est que ces femmes sont souvent recherchées par leur mari, par des gens mal intentionnés.
Ah, oui,
donc elles ont, puis parfois il y a la honte, il y a plein de choses comme ça qui fait que, ou même au sein des centres, il y a des femmes qui n'ont pas envie de donner leur identité, voilà, par protection.
Vous avez vécu en centre d'hébergement à Dolfa, dans votre vie de
non.
rue ? Non, dans votre voiture, vous dormez dans
non,
votre voiture ?
Non, parce qu'au centre d'hébergement, comme je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas le droit.
D'accord.
Alors donc, je vais rester dehors. Ah ouais, de mon temps en moi, c'était comme ça. Vous n'avez pas d'enfant ? On ne peut pas vous prendre.
Ouais.
Alors j'ai même dit, vous, peut-être, j'aurais dû aller avec une grande robe du soir, bien habillée, ouais. bien fringuée.
Évidemment, avoir répondu aux critères.
Ils m'auraient peut-être accepté. Hein. Comme on aurait dit une clocharde, et ben ils ont dit, non, on n'a pas besoin de ça.
Adolfa Van Merag, elle s'habille en rouge, là, comme vous la voyez, si vous voyez les auditeurs.
Oui.
Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'habilles en rouge ? Pourquoi ? Et elle m'a dit, parce que quand je suis sortie de prison, j'ai appris plein de choses et j'ai cherché du job, j'ai cherché un travail.
Ouais.
Et je suis allée à la mairie.
Hein.
Et à logement, bien sûr. Et à la mairie, on m'a dit quoi ?
On m'a dit, vous êtes marquée en rouge, alors j'avais pas le droit à logement ni du travail.
Marquée au rouge sur tous les papiers administratifs.
Ah,
et
parce que j'avais fait de la prison.
Parce que
mais aujourd'hui, quoi ? Aujourd'hui, t'habilles en
mais
rouge
maintenant,
pour te rappeler.
Je m'habille en rouge pour les emmerder.
Pour les emmerder parce qu'elle a un job.
Alors, vous travaillez. Alors, expliquez-nous simplement comment vous en êtes arrivée là, à la rue, Adolfa. Accident de vie, brutalité d'un parcours. Vous travaillez à un moment donné de votre vie ?
Oui,
vous n'avez pas d'enfant, mais vous travaillez.
J'ai travaillé dans les écoles maternelles.
D'accord.
J'adorais.
Oui.
Mais comme j'avais une trop grande gueule, la directrice, elle m'a mis dehors. Parce qu'il y a une dame qui a déshabillé un bébé, quoi, pour un petit de 3 ans.
Oui.
Et qu'elle a fait voir à tout le monde ses pieds parce que sa maman était partie, donc son père qui s'en occupait. Et ce gosse, il avait les pieds un peu sales.
Oui.
Ben, elle a déshabillé, alors l'enfant, il pleurait. Moi, j'étais le dire au père.
Oui.
Quand j'ai vu le père dehors, j'ai dit, écoute, je vais te dire une chose. Je dis pas son nom, hein, ça ne sert à rien.
Oui.
Elle va peut-être se reconnaître.
Mais vous refusiez cette humiliation pour le petit. Vous l'avez dit au papa.
On n'humilie pas un enfant.
Et
on
ne
fait pas pleurer.
Vous perdez votre boulot à ce moment-là ? Vous perdez votre travail à ce moment-là ?
J'ai demandé, parce que j'ai la directrice, elle m'a fait venir dans son bureau, elle a dit, quand vous voyez quelque chose dans l'école, vous vous taisez, vous n'avez rien à dire. Ah ben, puisque c'est comme ça, ben, j'ai déjà mieux pris de ma compte, je reste ici.
Oui.
Adolfa, ce que veut savoir Wendy, je crois, c'est quand est-ce que tu es arrivée à la gare, tu vois, est-ce que tu es arrivée à la rue ?
À la rue.
Comment c'est arrivé
à la rue.
Quand tu es arrivée à la gare
J'ai déjà été à la rue que j'avais 12 ans, que ma mère, elle m'a punie. C'était une punition. J'étais 3 jours dehors. Mmh. À l'âge de 12 ans, je dormais dans un cabinet. J'étais obligée.
Mmh.
Et après, j'avais 15 ans. J'avais une petite chienne. Et puis, ils avaient tapé dessus. Et puis, ils avaient crevé ses yeux. Donc, j'avais été au CHR pour voir si on pouvait pas... l'arranger un petit peu, parce qu'elle était vraiment mal arrangée. Et ils ont dû la piquer parce qu'elle avait du pus dans la tête, elle avait tout parce qu'elle a... Donc, j'ai rouspété sur ma mère, j'ai dit, maintenant, je ne travaillerai plus. Je ne travaillerai plus, j'ai dit, pour toi, c'est terminé.
Ouais.
Je ne bosserai plus. Et bien, elle m'a mis dehors.
Ouais.
Alors, j'avais 15 ans,
alors, très
quand
tôt,
elle m'a mis
tôt,
dehors, que j'ai dormi dans des cafes.
Oh. Et avant la gare, là, quand tu es arrivée à la gare.
Ah, ça, c'est du temps de Léon.
Ouais, oui.
C'était du temps de Léon.
Léon, c'était votre mari ?
Ouais. J'avais une tête au carré. Mmh. Et ben, je m'en allais et puis je restais à la gare. Je dormais à la gare. C'est pas plus mal, la gare.
Ouais.
Mais c'est marrant parce qu'à Paris,
Didier,
moi qui ai dormi à la gare Montparnasse,
Et
il y a énormément de femmes qui sont à la gare Montparnasse jusqu'à la fermeture.
Parce qu'elles se sentent plus en sécurité,
voilà,
Julien Damon, c'est ça, dans les gares, il y a du passage, entre guillemets.
En fait, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à m'occuper des sans-abri, je travaillais à la SNCF sur les sans-abri dans les gares.
Ah.
On s'est peut-être vu à cette occasion. Mais pour dire que vous aviez une association qui est toujours en place, d'ailleurs, qui s'appelle l'ARFOG, pardon, ça veut dire Association pour le reclassement féminin, œuvre des gares. C'était pour les Bretonnes qui arrivaient de Bretagne et qui arrivaient gare Montparnasse pour les protéger de la prostitution. Vous aviez déjà des travailleurs sociaux qui allaient en gare et dans la périphérie des gares, voir les gens en difficulté.
Il y a une chose qui est importante sur ce sujet-là. Quand Claire Lajeunie a terminé le documentaire, quand le film se termine, Catherine qui est une femme qui s'endort un peu tout le temps dans le film aussi. Donc à la fin de son documentaire, elle est stabilisée, ce qu'on appelle ça comme ça, elle a trouvé un hôtel social. Moi, quand j'ai commencé mon investigation, elle était repartie à la rue. Donc j'ai passé un an dans les centres en me disant, mais pourquoi ? Pourquoi elle est retombée à la rue ? Comment ça se fait qu'une femme aujourd'hui retombe à la rue ? Mais en fait, c'est juste parce que je me suis rendu compte que c'était un jeu vidéo. Déjà que le process de réinsertion marche par paliers, comme ça. Donc il y a le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2. Et quand on accède au niveau supérieur, eh bien, il est impossible de revenir au niveau précédent. En gros, quand on a un hôtel social, quand on a une chambre, eh bien, on n'a plus le droit de parler à l'assistante sociale qui nous a aidés pendant plusieurs mois à avoir cette chambre. On n'a plus le droit d'aller dans les centres d'accueil de jour, justement, qui nous ont donné un peu à manger, un toit, et juste avoir du lien social. Se retrouve dans une chambre et on est seul.
Merci Louis-Julien Petit, j'aurais poursuivi volontiers la conversation avec vous et avec Adolpha, mais je dois vous libérer car vous poursuivez aussi la promotion pour parler, et vous avez raison d'en parler, de ce film magnifique qui sort demain, Les Invisibles. Je précise qu'à 7h45 demain matin, Nikos Aliagas recevra sur cette antenne Corinne Massiero, qui interprète brillamment la directrice de ce centre d'accueil de jour pour femmes SDF. Merci Adolpha, je vous souhaite plein de belles choses, voilà, auréolées par la gentillesse de Louis-Julien Petit, un beau talent. Et on se retrouve dans un instant avec Julien Damon, avec Didier qui va nous raconter sa vie, ce travail au quotidien aussi pour se réinsérer. À tout de suite pour parler des sans-abri en France avec Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Vivre dans la rue, comment est-ce possible en 2019? Comment cela se passe? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
Alors qu'une vague de froid est attendue lundi, et l'on pense dans ces cas-là davantage encore à la situation des sans-abri dans notre pays, des chiffres aléatoires autour de 150 000 personnes. Mais Julien Damon, sociologue et spécialiste du sujet, nous disait qu'il y a ces femmes et ces hommes que l'on voit dans la rue, qui dorment dans la rue. Il y a tous ceux qui dorment en centre d'hébergement, qui sont en centre d'accueil de jour, qu'on voit peu, qu'on voit moins, que Louis-Julien Petit appelle les invisibles, aussi invisibles que les travailleurs et les travailleuses sociales qui les aident justement à se réinsérer. Un taux de réponse négative à une demande au SAMU social, le 115, qui grimpe par exemple à 75% à Paris en ces périodes d'hiver, à 83% en Seine-Saint-Denis et dans le Rhône. Didier, vous qui êtes avec nous, qui avez vécu dans la rue pendant 3 ans, vous avez aussi, vous, le soir, tenté de joindre le 115 encore et encore et encore.
Alors moi, j'ai essayé d'appeler la première fois, quand j'ai appelé la première fois, on m'a répondu, j'ai réussi à les avoir au bout de 2 heures, je crois. Et la première question qu'ils m'ont posée, ça a été, ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue? Et moi, ça faisait 3 semaines, à peu près. La personne que j'ai eue m'a dit, mais écoutez, ça fait pas très longtemps que vous êtes dans la rue, il y a d'autres personnes.
Quelle horreur, ouais.
Et là, je me suis dit, bah écoutez, c'est pas, j'ai raccroché, parce que je m'attendais pas du tout à cette réponse.
Et ça vous a dégoûté, vous n'avez plus jamais appelé le SAMU
social. Ah oui, ça m'a dégoûté totalement. Ouais, je préférais à la rigueur dormir dans la rue et me débrouiller. J'ai trouvé ça, mais...
Ça pose le problème des centres totalement engorgés.
Je ne sais pas du tout, hein, parce que je me suis dit, si la personne est fragile, et si elle a vraiment besoin, mais comment...
C'est quand même assez surréaliste, Julien Damon, hein, ce genre de critère de sélection.
C'est le mot qui me venait à l'esprit, surréaliste, et c'est bien ce qui est décrit depuis des années. Alors, ce numéro, le 115, a été inventé il y a un quart de siècle, à l'hiver 93-94, en même temps que ce dispositif original, qui est le SAMU social, en charge, en théorie, d'aller au-devant des gens à la rue.
Social, ouais.
Il faut bien faire un constat, ça vient d'être dit, ça ne marche absolument pas. C'est lié d'une part à l'engorgement des centres, et d'ailleurs assez fondamentalement à l'engorgement des centres et du système de logement social, et ensuite parce que c'est complètement dévoyé par rapport à son objectif. Quand Didier, qui est à la rue, a besoin d'un centre d'hébergement, on lui répond non, restez encore 2-3 semaines à la rue, et là vous serez bien cuit, on pourra vous prendre dans un centre d'hébergement. Alors qu'en réalité, ça fonctionne comme un système de réservation hôtelières extrêmement coûteux pour une partie des gens qui sont complètement perdus dans le système d'hébergement. Et donc oui. Ça ne marche absolument pas, le 115. Et ce n'est pas en réinjectant d'ailleurs des millions d'euros que ça marchera mieux.
Oui. Tout à fait.
L'essentiel, voilà. C'est de créer du logement. On va revenir là-dessus après la pause. Sachant qu'un tiers des sans-domicile sont hébergés aujourd'hui dans des logements. Vous confirmez ces chiffres, Julien Damon, plus
oui,
ou
alors,
moins.
Sur les chiffres, vous savez un mot. Voilà. Vous savez qu'il est difficile de trouver une aiguille dans une meule de foin, vous êtes au courant. Mais il y a plus compliqué, c'est lorsque vous avez trouvé l'aiguille, de prouver qu'il n'y a plus d'aiguille dans la meule de foin. C'est tout le problème des sans-abri. Hein. On peut en compter X centaines de milliers, on vous dira toujours qu'il peut y en avoir X centaines de milliers en plus.
Ouais, avec 900 000 mal logés au moins dans notre pays, nous avons fait une émission consacrée au nouveau visage de la pauvreté. Vous parliez déjà de ces autres visages des clochards au SDF d'aujourd'hui. Vous allez nous dire ceux et celles que vous avez rencontrés, Didier, lors de vos errances pendant 3 ans dans les rues, alors que vous travailliez le jour comme boucher. Vous avez toujours tenu à conserver un emploi,
tout à fait.
Malgré tout, coûte que coûte et vaille que vaille. On se retrouve dans un instant.
Nous parlons des milliers de sans-abri en France et nous posons la question comment passer de la rue à l'emploi. Wendy Bouchard.
Et oui, c'est le cas de Didier qui vient témoigner en studio aujourd'hui. Je vous remercie de le faire justement pour donner peut-être de l'espoir à ceux qui nous écoutent. Vous êtes nombreux, chers amis, à nous écouter dans vos logements de fortune, sous les portes cochères. Et on vous salue, on vous souhaite le plus grand courage possible et le plus grand espoir aussi lorsque on vous entend, Didier. Racontez-nous votre histoire, comment vous êtes passé d'une vie normale, classique j'allais dire, à la vie dans la rue, il y a quelques années.
Eh bien, en 2016, je me suis séparé, après 24 ans de vie commune. Les 10 dernières années aussi, je prenais beaucoup de drogue, cocaïne et héroïne à la fin.
Ouais.
Et quand je me suis séparé, je me suis posé la question, je me suis dit, soit tu continues à prendre la drogue et à détruire et à détruire ta vie. Parce que, voilà. Et moi, la rue m'a fait arrêter. Alors, pendant 3 mois, j'ai erré dans la rue. J'étais un zombillon, on va dire. Parce que je n'ai pas été aidé. Je l'ai fait tout seul.
Donc, vous quittez l'appartement conjugal.
Je quitte l'appartement
avec
conjugal.
Avec une valise.
Avec une valise.
Oui.
Et je me suis retrouvé à la gare Montparnasse. J'ai erré pendant 3 mois et je connaissais pas du tout les associations en plus et c'est une personne que j'ai rencontrée au bout de 2 mois qui m'a fait connaître les associations pour manger, pour me doucher parce que c'est très important et c'est compliqué aussi de pouvoir se doucher, de pouvoir
il faut connaître les circuits justement.
Il faut connaître les circuits, exactement, parce que pour manger à Paris on peut manger on peut se nourrir. Quand on est dans la rue, il y a les paroisses, il y a beaucoup d'ailleurs les catholiques qui font énormément pour les sans-abri. Il y a les petites sœurs des pauvres.
Alors vous frappez aux portes et vous vous débrouillez, c'est le système des.
Ouais, voilà. Ouais. Mais donc vous avez par exemple le mardi, le jeudi, il y a telle paroisse qui offre le petit déjeuner, le samedi matin, le dimanche matin. Mais après quand vous travaillez, c'est pas toujours facile.
Alors, sachant que voilà, parce que vous décidez de quitter l'appartement, enfin, vous quittez l'appartement familial, mais vous allez à la rue, du jour au lendemain, et vous continuez à travailler. Vous êtes bouché, vous continuez à travailler le jour.
Après les 3 mois où je me suis sevré
de la drogue.
De la drogue, j'ai repris le travail. Et moi, je travaillais au black parce que je ne pouvais pas avoir un CDI. Je ne pouvais pas travailler à temps complet. Voilà, il me fallait un temps de... Et donc, j'ai recommencé à travailler et c'est là que j'ai poussé un peu les portes des associations. J'ai vu les assistantes sociales. Alors moi, le RSA, je ne voulais pas du tout du RSA.
Mais Julien Damon, vous posez la question d'ailleurs. Pourquoi avez-vous refusé cette aide?
Parce que je pouvais avoir un CDI
d'activité.
Et je demandais juste une aide pour le logement, de me loger pendant 4 mois ou 5 mois, le temps que je mette l'argent de côté. J'ai mes 4 mois de CDI, mes fiches de paye, et pouvoir prendre un petit meublé... la réponse était toujours non, on peut pas, parce que faut vous toucher le RSA, vous allez avoir le SIAO, c'est-à-dire l'aide aux foyers sociaux. Mais je me suis toujours débrouillé.
Et alors aujourd'hui, vous en êtes où, Didier ?
Alors aujourd'hui,
d'abord, le bon point, pardon, mais pour cette thérapie de choc, c'est que vous ne vous droguez plus.
Non,
vous
avez non, plus du tout.
La rue vous a sevré de la coke et de l'héroïne.
Bon. Ouais. Mais vous aviez les moyens d'acheter de la vous fournir en coke et héroïne à l'époque ?
Avant, oui, j'avais les moyens.
Ah, donc votre salaire de boucher passait là-dedans, alors ?
Tout à fait. Tout à fait.
Ouais. Et maintenant ?
Et puis j'avais... Et la rue m'a fait changer aussi ma façon de voir la vie.
Vous avez des enfants ?
Pas du tout, non.
Non,
pas non.
Et donc aujourd'hui, vous en êtes où, Didier ?
Eh bien écoutez, là, normalement, j'ai un CDI la semaine prochaine.
Formidable.
Voilà, et là, je suis à Hiver Solidaire, au Plan Igloo, à Saint-Étienne-du-Mont, à côté du Panthéon.
Oui.
Pendant 3 mois.
Plan Igloo, c'est-à-dire que vous dormez dans ces...
Dans une paroisse.
Dans une paroisse, oui.
Voilà. Et ce qui va me permettre de mettre de l'argent de côté... Et d'avoir mon petit meublé après.
Grâce au CDI aussi.
Voilà, grâce au CDI.
Les choses s'enchaînent intelligemment, au bout de 3 ans de difficultés lourdes. Dans un instant, on va recevoir Annie au 3921, qui est bénévole pour l'association De Toi à Moi, et justement qui aide les personnes à la rue, comme vous l'avez été, Didier, comme vous l'êtes encore, à retrouver un logement. On va en parler, lui donner la parole pour que... Eh bien, elle nous explique justement les hommes et les femmes qu'elle a pu rencontrer dans son parcours. Et je vous donne la parole, cher Julien, vous qui avez étudié Julien Damon, justement, tous ces chemins, tous ces parcours, et qui publiait Vers zéro SDF, exclusion à la documentation française. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard et ses invités. Nous sommes avec Didier, qui a été sans domicile fixe pendant 3 ans, et avec Julien Damon, qui est sociologue, professeur associé à Sciences Po et auteur du livre « Exclusion vers zéro SDF ?» paru à la documentation française.
Didier qui expliquait que dans son chemin d'errance dans la rue, il a trouvé des conseils à la gare Montparnasse, notamment de la part d'un homme qui vivait aussi à la rue, pas forcément des travailleurs sociaux, mais qui sont pourtant capitales. Ils sont au cœur, d'ailleurs, ces femmes, en particulier du film Les Invisibles, qui sort demain et qui nous donne l'occasion de cette émission. Julien Damon, est-ce qu'on est dans un dispositif sous-dimensionné aujourd'hui face à l'ampleur du problème, justement, pas assez d'encadrants, même s'il y a heureusement beaucoup de bénévoles ?
Sous-dimensionné, je ne le crois pas, je vous dirai pourquoi.
Oui.
Mal organisé, assurément. Premier mot de ce qu'a dit Didier, ça m'a rappelé une formule de quelqu'un qui a passé très longtemps à la rue, mais qui est là, c'est décédé, c'est monsieur Laplace, Sylvain, qui disait « SDF, c'est un boulot à plein temps ». Et je crois que c'est très vrai, et c'est un tout petit peu ce que vous décriviez. Et quand en plus de ça, on veut avoir un vrai boulot à côté, ça devient très compliqué. Sur la question des travailleurs sociaux, je crois en effet que ce sont eux, on devrait dire elles, c'est une profession très féminisée, les vrais invisibles. Et ce sont des sortes de fantassins de la République, hein, payés par nos prélèvements obligatoires. On ne sait pas exactement combien ils, elles sont. Si vous voulez des chiffres, on peut en balancer plein.
Oui,
vous avez des études pour nous dire qu'il y a 1,2 million de travailleurs sociaux, mais à l'intérieur, on compte les assistantes maternelles, les personnes qui s'occupent des personnes âgées. Vous avez en réalité quelques dizaines de milliers de personnes qui sont en charge des personnes dans la mouise profonde.
Ouais.
Mais ces quelques dizaines de milliers de personnes, il faut les rattacher à des milliards d'euros de dépenses publiques. Hein. La France est certainement le pays qui dépense le plus pour tenter d'aider les personnes à la rue, qui en est peut-être d'ailleurs le plus soucieux, mais qui fait très mal. Alors, pour terminer, il y a un sujet... pour rebondir ce que vous disiez, Didier, c'est que plus vous êtes dans la mouise, plus vous pouvez voir de travailleurs sociaux différents. Vous avez une multitude de gens que vous pouvez voir. Il y a un gros sujet qui est de savoir comment on organise mieux cela. Il y a une proposition qui court, qui est comme sur le modèle du médecin traitant, avoir un médecin qui est responsable de vous, dans une mesure, il devrait y avoir un travailleur social traitant. Dans le vocabulaire techno, passant au journal officiel, on appelle ça un référent unique. Et je crois qu'avoir un travailleur social qui soit responsable de vous, plutôt que d'avoir plein de travailleurs sociaux, ce serait formidable. Formidable pour les gens en difficulté, formidable, à condition que ce soit bien organisé, pour ces invisibles de la République que sont les travailleurs sociaux.
Oui, c'est très intéressant. Je vous donne juste une tendance. Un SDF sur 3 seulement serait suivi par un travailleur social. Justement, voilà ce qui corrobore vos propos. Et puis la question du logement, alors durable ou hébergement de longue durée au moins, se pose évidemment de manière criante. Nous sommes avec Annie, qui est bénévole et qui nous appelle au 3921. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir témoigner pour le compte de l'association De Toi à Moi. Alors vous allez nous expliquer au gré de votre message les hommes et les femmes que vous rencontrez, ce qu'ils vous demandent et comment vous les aidez, Annie.
Bah écoutez, les hommes et les femmes qu'on rencontre sont très diverses. Hein. Il y a Il y a des jeunes qui se trouvent dans la rue désemparés. Mmh. Il y a des femmes battues. Il y a des familles qui se retrouvent parce qu'elles ne peuvent plus payer le loyer.
Oui.
Il y a les divorces, les chefs d'entreprise qui perdent leur entreprise. Voilà, c'est...
Oui.
Alors, comment on les aide ? Moi, je n'ai pas un rôle énorme, mais il y a des salariés à l'association qui prennent en charge vraiment ces gens et qui les logent.
Mm-hmm. Alors, l'idée, c'est de leur trouver d'abord un logement d'urgence, puis un logement durable.
Non, automatiquement, quand on récupère ces gens, ils ont un logement, parce que l'association a acheté des logements.
D'accord, d'accord.
Donc, mmh. ces gens sont logés tout mmh. de suite, et en général, pour une durée au moins de 3 ans.
Oui.
Le temps qu'ils puissent se retrouver des liens sociaux, finir par retrouver un travail, ça prend beaucoup de temps.
Oui, et j'imagine
et
que vous avez deux... Oui, je vous écoute.
Pour ça, il y a une personne vraiment qui est qualifiée, qui sait comment
oui.
il y a
une liste d'attente très importante, j'imagine.
Très importante, et très oui. importante. Et évidemment, à chaque fois, il faut faire un choix. C'est, oui. c'est cruel, mais si on veut s'occuper d'une personne, il faut du temps.
Oui.
C'est ce que disent ceux qui s'en occupent. Et là, ces gens sont pris en charge. Donc, ils ont un logement, mais surtout, ils ont un suivi.
Mmh.
Voilà, il y a une personne qui s'en occupe.
Voilà, un accompagnement qui est fondamental.
Oui, un accompagnement qui est fondamental.
Ah ouais,
voilà.
Et merci beaucoup, Annie. Voilà,
de
vous dévouer, de donner votre temps pour cette association. De toi à moi, que vous ne connaissiez pas, par exemple, Didier. Qui peut-être aurait pu vous aider, mais voilà, avec une longue liste d'attentes, hélas, et vous avez, dû aller de gare en gare, de logement en logement. Vous n'êtes jamais allé dans les hébergements d'urgence
alors,
de nuit ?
Alors, moi, je suis allé, j'allais au restaurant du cœur,
d'accord.
au camion, oui. le soir.
Ça pour vous nourrir, mais pour dormir.
Si. Il y a un tirage au sort.
Ah.
C'est un tirage au sort, au camion. Et ils choisissent. Alors, il y a deux personnes qui peuvent dormir à la péniche Quai de Salitz.
Oui.
Alors, ça m'est arrivé d'aller dormir là-bas parce que j'étais tiré au sort. Voilà.
Ouais.
Donc, quand on voit déjà le tirage au sort, il y a quand même entre 30 et 40 inscrits. Donc,
ouais, c'est dur. Hein.
C'est très dur.
Ouais.
Ouais, ouais.
Et c'est quoi cette péniche ?
Alors, la péniche, c'est les restaurants du cœur.
Ah, les restos du cœur, ouais. Les péniches d'hébergement ?
La péniche du cœur.
Ah, bon. La péniche du cœur. Ouais.
Ouais. Et c'est le seul hébergement à Paris, à part le 115.
Oui.
Vous pouvez dormir le soir.
Voilà, sinon, et le film l'explique bien, Julien Damon, il y a des hébergements, mais parfois à 50 km des centres ouais. d'accueil de jour pour les hommes ou pour les femmes. C'est-à-dire que les SDF qui veulent dormir doivent faire 100 km aller-retour sans voiture, avec des transports
avec
publics qu'il faut payer, avec des bagages. Donc il y a des situations, vous parlez de désorganisation ubuesque en effet. On peut balancer des adjectifs surréalistes, ubuesque, mais on est là-dedans malheureusement.
Ah, je crois qu'on est dans le uberois, là, pour oui. ce système. Prenons l'Île-de-France. En Île-de-France, chaque nuit, vous avez plus de 100 000 personnes qui sont hébergées dans des systèmes très différents, qui vont d'hôtels sociaux à des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. N'ont pas de domicile, jusqu'à des centres d'hébergement d'urgence et des centres d'hébergement où on peut rester même plusieurs années. 100 000 personnes, ça fait 1% de la population francilienne. L'effort est considérable, mais même avec cet effort considérable, nous sommes plutôt dans l'uberois, puisque dans les cas les plus durs comme le vôtre, les gens qui sont complètement à la rue, eh bien on n'accède pas à ces services.
Oui.
Pourquoi ? Parce que c'est engorgé, parce que le logement social lui-même est engorgé, et malgré les efforts qui sont accumulés chaque année, on n'arrive pas à désengorger.
Merci Julien Damon. On se retrouve pour quelques minutes encore pour parler de ces SDF oubliés de la République. Pas forcément parce que l'État veut déployer beaucoup de moyens, mais ne le fait pas forcément à bon escient. Justement, Didier continue de nous livrer son témoignage, lui qui a vécu dans la rue pendant 3 ans. Et on croise les doigts pour votre CDI que vous devriez signer la
Merci.
Semaine prochaine, Didier. On vous porte chance, on le souhaite de tout cœur. À tout de suite sur Europe 1 avec Julie. Et n'hésitez pas à réagir comme Annie, bénévole, à témoigner au Standard 1.
Bien sûr. Sur le 3921, attend vos appels.
Encore quelques minutes pour notre tour de la question sur les sans-abri et les travailleurs sociaux. Nous en parlons à l'occasion de la sortie du film demain, Les Invisibles.
Un film bouleversant de Louis-Julien Petit qui venait témoigner en compagnie d'Adolpha, une femme qui a connu la rue et la misère. Il témoigne aujourd'hui en studio aussi avec nous, Didier, sans domicile fixe pendant 3 ans, qui a toujours travaillé, qui a tenu à travailler, mais qui a vécu dans les gares, qui s'est débrouillé pendant 3 ans pour ne pas perdre la face. Lors de la campagne présidentielle, en 2017, Julien Damon, vous qui êtes sociologue et qui avez écrit « Exclusion vers zéro SDF », Emmanuel Macron avait déclaré « D'ici la fin de l'année 2017, je ne veux plus personne dans les rues et dans les bois ». Nous sommes en 2019, 500 SDF sont encore morts dans les rues l'an passé. Cette promesse est un échec. On n'a pas tout essayé, pourtant, sur ce front des sans-abri.
C'est comme sur le chômage, en effet, on n'a pas tout essayé. Alors, M. Macron n'est pas le seul à avoir dit qu'il fallait tenter zéro SDF. Ça a commencé par M. Jospin, qui d'ailleurs a perdu, lui, la présidentielle, peut-être parce qu'il avait annoncé un tel objectif auquel personne ne croit vraiment, hélas. M. Sarkozy avait fait de même. Je crois en tout cas que c'est un excellent objectif que tout le monde devrait se donner, parce que ça appelle une chose peut-être un brin bureaucratique au tout départ, ça appelle à regarder chaque année si oui, non, il y a vraiment plus de personnes en difficulté, et ce, dans l'ensemble des grandes métropoles.
Et la réponse est oui ?
La réponse est que la France est assez mauvaise en matière de, non pas d'investissement et de développement de nouveaux services pour les sans-abri, mais pour savoir de quoi on parle. Vous prenez de grandes capitales européennes très différentes, Madrid, Londres, Bruxelles, vous avez des chiffres annuels qui nous disent si, oui, non, il y a plus de gens à la rue, oui, non, il y a plus de gens dans les centres d'hébergement. En France, la réponse, c'est, alors, tant mieux pour les intellos comme moi, c'est voir littérature. On est assez mauvais parce que malgré nos développements, malgré nos investissements, malgré nos dépenses publiques, qui sont certainement parmi les plus conséquentes en Europe, eh ben, on a ce que nous avons qualifié pendant cette émission d'une organisation un peu ubuesque et surréaliste, avec une offre considérable mais bloqué, et des demandes très importantes de personnes qui sont pourtant les premières cibles de ces dispositifs et qui n'y accèdent pas.
Oui, parce qu'il y a un tas d'associations qui font un travail formidable au quotidien, beaucoup de centres d'accueil qui sont tenus aussi par des gens absolument formidables. Emmaüs Défi, la Fondation Abbé Pierre continue à faire tant et tant, et nous avons encore, c'est un chiffre que nous lancions il y a quelques semaines, mais terrible, 3000 enfants dans les rues. Encore, vous avez croisé ces nouveaux visages justement des sans-abri que vous nous décriviez dès le début, Didier.
Ah bon, j'ai croisé des femmes qui se cachent la nuit à la gare Montparnasse, qui sont en sécurité, parce que dans les gares, elles sont en sécurité.
La gare est ouverte toute la nuit ?
Non, ouais, alors c'est justement, c'est jusqu'à 1h du matin.
Ouais. Et ensuite ?
Et après, elles prennent le bus de nuit.
Pour aller où ?
Eh bien, elles font le tour de Paris.
Elles
dorment dans le bus. Et moi, je l'ai fait aussi, hein, parce que au début, je ne connaissais pas, donc j'ai dormi dans le lit.
Donc vous restez dans le bus et jusqu'au petit lever du matin.
Jusqu'à 4h30 du matin. Et à 4h30, la gare ouvre.
Voilà.
Et donc les femmes ou les personnes qui sont dans la rue retournent dans la gare. Et par contre, à 6h30, 7h, on vous dit, bah, écoutez, il faut partir parce que...
Il faut laisser la place.
Vous n'êtes pas le bien... Ouais, voilà. Les gens arrivent à la gare et... Et maintenant d'ailleurs, ils font que... Ils ont reconstruit les gares de façon qu'il n'y ait plus d'SDF dans les gares.
C'est-à-dire comment ils ont supprimé les bancs banquettes là.
Ouais, voilà, exactement, tout à fait.
D'où la question des invisibles, voilà, les gens et les hommes qu'on met de côté. Mais je reprends la formule qu'un homme de la rue donnait et que vous citiez, Julien Damon. SDF, c'est un travail à temps plein. On voit justement comment vous devez précisément rythmer vos journées, prendre ce bus et aller de tel. Voilà, tout est extrêmement régulé.
Puis moi, j'ai travaillé et j'ai dormi dans la rue parce que je dormais à Boulevard Arago. Et je me suis rasé le matin à 6h, 6h30 le matin dans les sanisettes, dans les toilettes. Parce qu'il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de... Et pour se changer d'ailleurs, même pour se changer. Parce que moi, étant dans la boucherie, il y a l'hygiène qui est très importante. Bon, moi, je me débrouillais parce que voilà. Et je n'avais pas toutes mes affaires, parce que je pouvais laisser des affaires chez un ami qui m'aidait. Mais c'est très. Et. Moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment au départ qu'il faut aider les personnes.
C'est-à-dire
ceux qui peuvent travailler.
Ceux qui veulent s'en sortir par la réinsertion.
Voilà, tout à fait. Et non pas dire, prenez le RSA et ça va aller. Non, non, non. ceux qui peuvent travailler, faut les encourager et faut qu'ils aient un logement tout de suite. Et même ceux qui travaillent, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, qui dorment dans la voiture et qui dorment dans la rue.
Il y a une bénévole dans le film Les Invisibles qui sort demain qui dit mais ça se trouve, elle ne veut pas s'en sortir. Et il y en a une autre qui lui répond, mais tu crois vraiment que c'est une question de volonté?
Ouais.
Mais est-ce que vous avez senti ça chez certains? Certains qui sont très forts, qui sont plus armés que d'autres, et puis d'autres qui finalement sont dans une spirale et ne veulent pas ou ne peuvent pas s'en sortir.
Bien sûr. Mais il faut être très fort psychologiquement. Et puis il y a l'alcool aussi, parce que le problème,
l'alcool,
c'est que...
La violence.
C'est faut être tout le temps sur le qui-vive, c'est vrai, dans la rue.
Surtout quand on est une femme, j'imagine.
Et surtout une femme, parce que nous, les hommes, bon, moi, j'ai jamais été agressé, voilà, mais bon, peut-être aussi que je...
Il y a beaucoup d'enfants qui dorment dans la rue.
On disait 3000, mais je ne sais pas si le chiffre est exact.
On le disait.
C'est comme toutes ces bagarres sur les chiffres.
C'est ça.
Ils dorment complètement à la rue, il y en a très peu.
Voilà,
maintenant,
qui dorment en
hébergement. Dans le retour des bidonvilles, dans des campements de migrants, il y a des enfants qui sont dans des situations totalement indignes au regard de ce qu'est notre belle République et de ce que sont, une nouvelle fois, les dépenses publiques, les politiques sociales qui doivent aider prioritairement ces jeunes qui n'y peuvent strictement rien. Il n'y a strictement aucune responsabilité à être enfant et à la rue.
Voilà. Ne baissez pas les yeux. Je sais pas, je voudrais terminer par une chose, parce que vous avez vu des gens passer, venir devant vous lorsque vous dormiez, lorsque vous étiez à la gare Montparnasse notamment. On ne sait jamais que faire, c'est-à-dire qu'on donne une pièce, mais on ne sait pas si on doit parler, entamer une conversation, donner des habits ou se dire, bon, bah voilà... on vit dans cette détresse, mais on est très impuissants, nous, citoyens. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui passaient devant vous? Que doit être notre comportement, Didier?
Je pense qu'il faut aller voir les personnes, essayer de discuter. Et si la personne n'est pas... ne veut pas discuter, il ne faut pas forcer.
D'accord.
Il ne faut surtout pas forcer. Et à la rigueur, si vous repassez le lendemain, eh bien, réessayez de dire bonjour, de discuter, et la personne va commencer à... à s'ouvrir un petit peu, voilà.
Mais plus qu'une pièce, le dialogue est important.
Mais plus qu'une pièce, alors ouais, tout à fait. Moi, j'ai jamais fait la manche. Parce
c'est
que,
ça.
Mais je pense que... Non, faut parler, faut discuter. Et l'argent, voilà. Alors moi, c'est mon point de vue. Et je tiens aussi à dire, c'est que moi, je voudrais remercier Le Carillon.
Qui est une association.
Une association qui m'a aidé énormément. Et où là, j'ai fait de la radio. On a créé une radio, Radio La Cloche.
Ah. Attention, c'est la concurrence, là.
Ouais,
le Carillon, c'est nous aussi, hein, radio. Voilà. Il arrive bientôt, le Carillon. Bah, alors, on les salue pour vous aussi.
Voilà. Et aussi, les paroisses qui font un travail énorme.
Ouais.
Et d'ailleurs, moi, je suis hébergé par une paroisse à Saint-Étienne-du-Mont.
Oui.
Et qui sont vraiment exceptionnels.
Eh bien, merci. Voilà. Merci pour eux et merci de votre témoignage, Didier. On croise les doigts pour la semaine prochaine pour votre CDI.
Merci.
Et on ira vous voir dans votre boucherie à Paris.
Merci beaucoup.
Merci, Julien Damon. Okay. Et on se retrouve dans un instant avec Alain Bougrain-Dubourg, la LPO en colère face à la chasse à la glu validée par le Conseil d'État.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.